Vous écoutez RTL.
Pays tropical.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
RTL.
Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises.
La curiosité est un vilain défaut.
Mais c'est un charmant petit coin.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ma cabane au fond du jardin.
Plus de 17 millions de Français, Laurent Gérard y compris, hein, c'était la version Laurent Gérard sur RTL, se passionnent pour leur jardin, parfois leur potager. Mais quels sont les secrets et les vertus des plantes? On répond à cette question qui en appelle beaucoup d'autres avec Mathieu Villiers, directeur de la rédaction de Sciences et Vie, qui est en train de se faire prendre en photo par Sarah, notre community manager. Vous verrez cette photo sur nos réseaux sociaux dans quelques secondes. Comment ça va, Mathieu?
Bah, très bien, très bien.
La forme. Bienvenue. Parmi les 100 questions auxquelles vous répondez dans ce magazine. Alors, on va commencer par un phénomène qui m'intrigue depuis l'enfance. Pourquoi les tournesols suivent-ils le soleil?
Il n'y a pas que les tournesols, hein, quand même.
Qui oui, mais quand même, moi j'ai repéré les tournesols. Oui, moi je fais le lézard, moi,
oui.
C'est autre chose.
Bah oui, je vous ai remarqué un jour sur la terrasse RTL.
Pff, n'importe quoi. Mais vraiment, la mythomanie de cette jeune femme devient un petit peu inquiétante. Alors, les tournesols.
Je peux vous laisser. Alors, les vieux tournesols ne font plus. Hein. C'est une capacité qu'ils perdent avec l'âge aussi, les tournesols.
Ah, c'est seulement les jeunes.
Oui, c'est les jeunes.
D'accord.
Qui ça.
Alors que
quelques années,
les vieux animateurs de radio continuent de se retourner pour suivre le soleil. Je crois qu'on a perdu Sidonie Bonnec. Donc, c'est seulement les jeunes tournesols. Mais alors, pourquoi ils font ça, Mathieu Villiers? Redevenons un peu sérieux.
Alors, ils font ça parce que pour assurer la photosynthèse, il faut quand même une exposition au soleil assez forte.
Ouais.
Alors, la question, c'était comment font-ils? Et ben, c'est une hormone qui s'appelle l'auxine. Qui, dès qu'il y a de la lumière qui est détectée, eh bien, il y a ordonné à l'auxine de se déployer du côté de l'ombre. Et l'auxine favorise la division cellulaire et la croissance des cellules. Du coup, on a une tige qui ne pousse pas à la même vitesse. La tige côté ombre pousse plus vite que la tige côté soleil et ça pivote.
Et ça provoque cette torsion.
Et tac. Et la nuit, ça fait l'inverse pour se représenter. Plein est le matin et tourner à l'ouest le soir.
Et pourquoi elles se referment les fleurs la nuit? Pour se reposer
Non.
Pour se détendre les pétales, non?
Une journée harassante. Non, c'est des différences d'hygrométrie, de pression à différents niveaux de la pétale. Donc c'est tout à fait mécanique. C'est des pressions d'eau qui sont différentes à certains moments de la journée quand on a moins d'humidité et moins de chaleur dans l'air. Cette combinaison de pressions fait que les fleurs ont tendance à se refermer le soir, plus ou moins selon les espèces.
C'est aussi une question de température, donc si je comprends bien.
Oui, la température joue aussi.
D'accord.
Absolument.
Alors, le soleil pour les plantes, c'est la vie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que moi j'ai toujours du mal à bien comprendre comment ça marche, la photosynthèse?
Alors, la photosynthèse. Nous on a de l'oxygène pour faire ce job. Hein. Les plantes font ça avec les photons, les rayons lumineux du soleil.
Mm-hmm.
Donc, le photon vient frapper. Un photorécepteur, typiquement la chlorophylle ou le carotène, voilà. Et cette énergie lumineuse est transformée en énergie électrique. C'est ce qui amorce la pompe énergétique, si vous voulez. Et une fois qu'on a transformé ça, une fois que la plante a transformé ça en énergie électrique, eh ben, elle fait le job qui consiste à fabriquer du glucose, enfin toutes sortes de matières organiques, en prenant de l'eau et du gaz carbonique. On a du H, on a du O, on a du C. Ok,
ouais.
H2O. CO2, on se rappelle plus ou moins de ça à l'école. Mmh. Et avec l'énergie photonique, on libère de l'électricité qui permet d'avoir des réactions chimiques et de faire du CHO. C'est du glucose, c'est-à-dire le glucose de mémoire, c'est 6, je ne sais plus.
Bon, enfin, mais c'est voilà. Pas grave, mais elles sont efficaces dans cette transformation? Si on compare par exemple une plante à un panneau solaire, un panneau photovoltaïque.
Alors là, le panneau solaire est ridiculement inefficace à côté de la plante qui globalement est à 100% d'efficacité, ce qui dans le monde de l'engineering n'existe pas. C'est d'une efficacité absolue, totale, troublante. On comprend pas très bien.
Exemple difficile à suivre.
Elle
alors,
transforme ouais. 100% de l'énergie solaire en
énergie électrique.
En énergie électrique.
Ouais. Aucune déperdition.
L'été, c'est aussi la période des coups de soleil. Faites attention d'ailleurs, hein, de la crème, protégez-vous, des chapeaux, des t-shirts longs. Les plantes, est-ce qu'elles
surtout
portent
pour les petits, les enfants,
oui, exactement, hein. Et même pour les grandes, hein, vous savez. Mmh. Les plantes, est-ce qu'elles souffrent aussi d'une trop grande exposition au soleil?
Ah bah oui, En plus, elles peuvent pas se mettre à l'ombre.
Elles peuvent pas courir vraiment.
Pattes, donc,
ils mettent des t-shirts?
Non, ils mettent pas de t-shirts. Ils ont.
Quels sont les risques et quelle est leur réaction alors?
Les mêmes que tous les organismes vivants, de l'oxydation, de la dégradation de l'ADN, des mutations. condition délétère et potentiellement gravissime. On connaît ça très bien. Alors, elles ont trouvé d'autres méthodes, notamment une chose qui s'appelle le cuticule, qui est une petite membrane cireuse qui recouvre les parties aériennes de la plante. Et puis, il y a aussi des pigments qui absorbent les UVB. Il y a tout un mécanisme. Et il y a même des enzymes qui se déclenchent quand ils reçoivent le signal selon lequel l'exposition solaire est forte. Ils se préparent déjà, les enzymes, à libérer des molécules qui réparent l'ADN des fois qu'ils soient altérés. Donc c'est véritablement un enjeu pour la plante de ne pas attraper de coups de soleil. Ça peut faire rigoler, mais c'est une affaire tout à fait sérieuse.
Mmh. Mathieu Bidier, dans ce Science et Vie questions-réponses, il y a tout ce que la science a découvert récemment à propos des plantes et notamment leur intelligence. Voilà ce qu'on va découvrir dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Les plantes, leurs secrets et leurs vertus sont dans l'œil de notre curiosité et en couverture du magazine Science et Vie en partenariat avec RTL. Mathieu Villiers, on a une question très importante pour vous. Est-ce que les plantes ont une forme d'intelligence? Est-ce qu'on peut même dire qu'elles ont un cerveau?
Alors, incontestablement, elles ont une forme d'intelligence. C'est même stupéfiant. Enfin, moi, je suis un peu tombé de ma chaise en faisant ce numéro. Je ne savais pas tout ça. Ce sont des données assez récentes parce que on les regardait pas tellement, les plantes. On les étudiait en biologie, mais ça fait une vingtaine d'années que les gens se disent, mais finalement, on a regardé ce qu'elles font. Une sorte de comportement végétal. Et on a découvert des choses hallucinantes que je ne soupçonnais pas. Le mot intelligence paraît incontestable, tout à fait approprié.
Par exemple, les peupliers communiquent entre eux.
Mais tout le monde communique avec tout le monde.
Mais comment, par exemple, les peupliers?
Alors, il y a à peu près 700 récepteurs différents dans le monde végétal qui mesurent tout, même des choses qu'on ne ressent pas, qu'on ne sait pas mesurer. Et ça échange en permanence, beaucoup avec les racines. Pas mal aussi avec les feuilles qui dégagent des composés volatiles. C'est un réseau inextricable. Tout le monde papote avec tout le monde. Alors, il faut se méfier des métaphores, mais sur papote, bon, ok. Mais ça échange en permanence des signaux électriques, essentiellement, et chimiques, mais sur des distances avec une intensité phénoménale. Et on n'avait pas vu, parce qu'on n'avait pas les outils pour voir, parce que c'est de la chimie, et la chimie, c'est un petit peu compliqué à observer en temps réel, et aussi parce que quand on regarde, ça bouge pas un arbre. C'est très lent, l'arbre. Alors quand on regarde à notre échelle, à nous, il se passe rien, et puis on voit pas ce qui se passe en dessous, mais ça crépite de partout. Ça discute en permanence, ça échange énormément. Et même les peupliers avec les champignons qui discutent avec un petit peuplier, ça n'arrête pas. Ça gazouille sous terre, mais infiniment.
Alors, ça veut dire que, par exemple, un cerveau, quand même.
Ben, pas en tant que tel.
Ben, ça n'a pas d'organes, le monde végétal.
Mais ça n'a pas de connexion, de neurones.
Ça n'a pas de tissu vraiment spécialisé. Ouais. Même on se rend compte que certaines cellules ont des propriétés que d'autres n'ont pas. Mais ce n'est pas organisé en organes comme nous, si vous voulez. Donc il n'y a pas de cerveau à proprement parler. La pieuvre, on dit qu'elle a un cerveau dans chaque tentacule. Elle a peut-être un cerveau dans chaque feuille, j'en sais rien. Mais il n'y a pas d'organe de centralisation de cette intelligence.
Ouais. Mais alors vous parlez d'une forme de communication par impulsion chimique ou électrique. Est-ce que ça veut dire que des plantes peuvent s'alerter d'une certaine façon, je ne sais pas, d'un danger, d'une tempête qui arrive ou d'un refroidissement brutal? Est-ce qu'il y a des réseaux d'alerte?
Alors, il y a des réseaux d'alerte et puis il y a aussi des mémoires très fortes. Il y a des dispositifs métaboliques surpuissants qui se passent. Il suffit qu'il y ait un démarrage d'incendie, un coup de vent extrêmement fort. Tout cela laisse des traces véritablement dans l'arbre. Tout se passe comme s'il s'en souvenait, c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont activés en cas de coup de vent, qui se désactivent quand le coup de vent est passé. Et tout ça se transmet chimiquement par impulsion électrique, essentiellement par les racines.
Alors encore plus surprenant, c'est une étude menée par une chercheuse australienne sur du maïs. Qu'est-ce qu'elle voulait prouver? Qu'est-ce que vous racontez dans le magazine Science et Vie?
C'est une chercheuse qui s'appelle Monica Cagliano qui a voulu essayer de démontrer que le monde végétal avait de l'ouïe. Donc elle a trempé son maïs dans des solutions un peu particulières et elle a généré un certain nombre de sons. Elle s'est rendue compte qu'à certaines fréquences, dans les 200 Hz, qui sont des bonnes grosses basses déjà, les radicules du maïs s'orientaient tous dans la direction de la source sonore. Bon.
C'est quoi? C'est les vibrations des basses, peut-être?
Plus des vibrations, mais en même temps, il y a cette sensibilité aux vibrations des basses dont on ne sait pas très bien à quoi elles servent.
Oui, c'est les fameuses plantes qui dansent, c'est ça, on a vu. Il y a pas mal de vidéos sur Internet, on voit des plantes se trémousser sur du Mozart ou de la techno.
Le sentiment qu'on a eu en compilant un peu toutes les études sur les plantes, c'est que du côté de la phénoménologie, c'est-à-dire de ce qu'on peut observer et constater, on en a vu énormément, et que la période qui s'ouvre va être une période pour essayer de comprendre tout ce qu'on a vu. Je pense pas qu'on voit beaucoup d'autres choses que ce qui a été observé, mais il y a beaucoup à comprendre sur ce qu'on voit chez les
plantes. Mais on se prend à rêver un peu que ces plantes aussi nous ressemblent quelque part. Est-ce qu'on peut dire que les plantes ont la fibre familiale, par exemple ?
Alors ça, c'est tout à fait vertigineux aussi. Il y a une expérience dans laquelle les branches de certains arbres ont été enfermées dans des poches contenant beaucoup de CO2. Ce qui force la production de glucose. Ils ont rendu ce CO2 légèrement radioactif, de sorte qu'ils peuvent le tracer sous terre avec un compteur GGR. Donc on s'est aperçu que cet apport supplémentaire de glucose un peu forcé, disséminé un peu partout dans la forêt, prioritairement aux petits de la même famille. Ça part partout, mais surtout aux petits de la même famille.
C'est-à-dire que, j'en sais rien, un fraisier va envoyer le glucose au bébé fraisier.
Ça, c'était chez les arbres.
Parce
que chez les arbres, la canopée, il y a les arbres les plus grands qui squattent un peu la super lumière du haut.
Ouais,
et puis, il y a les petits qui vivent un peu dans l'ombre.
Donc,
il y a un réseau
protégés,
d'entraide de ça. Parce que sinon, les petits arbres en dessous, ils mourraient. Donc, en cas d'excès de glucose, tout le monde se sert, mais les petits en priorité. Et vous parlez des fraisiers. Il y a des plantes qui, s'ils sont issus de la même ligne de graines, vont coopérer. S'ils ne sont pas issus de la même ligne de graines, ils ne coopéreront pas. Il y en a qui ne coopèrent avec personne. Il y en a qui coopèrent avec tout le monde. En fait, cette histoire qui m'a totalement perturbé, peut-être ça s'entend que je trouve ça totalement fascinant. On s'y attendait pas parce que Darwin nous a expliqué essentiellement que la sélection était une histoire de lutte. C'est la guerre, la loi de la jungle, tout le monde se bat. Et ce monde végétal, c'est pas le seul. Ce monde végétal est un monde de coopération essentiellement. Il y a très peu de lutte, il y a énormément de mise en symbiose, de coopération, et donc on est dans une lecture du vivant et de l'évolution du vivant. On n'a pas été à préparer à regarder les coopérations qui sont plus difficiles à voir que les compétitions qui sont très 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 fortes dans le végétal.
Et nos plantes différemment maintenant.
Bah oui, évidemment, et on va aussi aller faire un tour au potager. Tiens, il y a 17 millions de Français qui sont passionnés de jardin, et de plus en plus nombreux sont ceux qui ont un potager. Ils ont plein de questions et on a plein de conseils.
Oui, par exemple, comment limiter sa consommation d'eau, varier les fruits et légumes cultivés, rendre sa terre facile à travailler. Beau programme, restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. RTL. Première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On se passionne pour les plantes et leurs secrets sur RTL avec Mathieu Viguier, directeur de la rédaction du magazine Science et Vie. Votre 100 questions, 100 réponses de l'été est consacré à ce thème. C'est vrai qu'il y a une passion française qui n'est pas nouvelle, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Passion pour les jardins et pour les potagers.
Oui, c'est en plein boom.
C'est 17 millions de Français, c'est ça ? J'ai trouvé le chiffre dans votre magazine.
Il y en a qui disent que c'est la faute à Voltaire qui disait qu'il fallait cultiver son jardin, je ne sais pas, mais...
C'est parce qu'on a envie de manger sain de nouveau.
Mais oui. Alors, il y a plein de raisons. Sûrement d'abord, c'est du travail manuel, et puis on sait que c'est assez valorisant, et puis qu'on est peut-être dans une société où on a un peu envie de ça. Et puis en général, on est dans des espaces assez agréables, et la fréquentation du végétal est plutôt quelque chose d'apaisant. Il y a peut-être des considérations économiques aussi, parce que ça permet de manger pas cher pour certains. Mmh. Et puis certainement des préoccupations aussi de qualité de nourriture, au moins c'est ce qu'on mange. En tout cas, tout ça fait qu'il y a énormément de Français qui s'adonnent aux joies du jardinage et du potager.
Et c'est quoi les stars du potager ? Qu'est-ce qu'on plante en priorité ?
Alors,
vous avez trouvé un sondage là-dessus.
IFOP, qui dit que c'est la bonne pomme de terre.
Ah,
qu'est-ce que j'aime les patates.
La patate, juste devant la salade qui fait jeu égal avec la tomate. Quant au basilic et au persil aussi en herbes aromatiques, elles sont très bien placées.
Alors pour faire pousser ces fruits et ces légumes, il faut forcément une bonne terre. Oui, mais d'accord. C'est quoi une bonne terre ?
Une bonne terre, c'est une terre adaptée à ce qu'on fait pousser dessus. C'est-à-dire, voilà, ça dépend. Enfin, globalement, il faut une terre assez grasse, assez riche, avec des nutriments, plus ou moins d'azote, selon. Voilà. Mais il faut une terre. Il faut s'en occuper de sa terre. C'est-à-dire, il faut la faire tourner. Il faut parfois l'enrichir un petit peu. Il faut pas
avec
toujours.
Avec du compost, par exemple.
Du compost, absolument.
Ou du fumier, comme disait mon grand-père.
Voilà. Et il faut aussi s'efforcer de pas avoir toujours les mêmes cultures au même endroit, parce que certaines plantes absorbent beaucoup d'azote, d'autres moins, d'autres ont certains besoins de nutriments, d'autres nutriments. Donc en les faisant tourner, on s'assure aussi un peu de la régénération de l'ensemble et de ne pas avoir des parcelles très spécialisées dans certaines cultures.
Ouais, la rotation des cultures, ça veut dire qu'il faut quadriller en quelque sorte son potager faire, j'en sais rien, 6 carrés avec tel type de plante et on fait vraiment tourner. Quoi.
On peut faire comme ça, mais il faut éviter de faire des légumes à feuilles au même endroit tous les ans parce que ça a beaucoup besoin d'azote et que le sol n'en aura plus si ce sont ces légumes-là qui sont plantés en permanence tous les ans sur la même parcelle.
Donc il faut la rafraîchir cette terre aussi pour l'arrosage. Donc évidemment, on n'arrose pas aux heures chaudes, bon, ça c'est du bon sens. Ouais. Mais est-ce qu'il vaut mieux arroser le matin ou le soir ?
Il faut mieux arroser le matin en fait.
Ah, je croyais que c'était le soir, moi, justement, non, pour pas que ça s'évapore.
Le pire, c'est en plein soleil, évidemment. Ouais. Mais il faut mieux arroser le matin. Le soir, on peut avoir de l'humidité qui reste collée un peu sous les feuilles, enfin, qui reste stagnée sous les feuilles, et qui favorise l'apparition de champignons. Donc, ça peut être problématique. Puis, il y a les limaces aussi, qui adorent les sols humides et qui sont beaucoup plus invasives la nuit si le sol est trempé. Donc, il faut mieux arroser le matin.
On en apprend des choses avec ce magazine Science et Vie, et comme chaque mois. Comment est-ce qu'on peut limiter sa consommation d'eau aussi? Parce que ça. Quand on arrose beaucoup, évidemment, on prive un peu la terre d'eau. Et ça, on est sensible à ça aussi.
Ben, on peut peut-être éviter de planter des légumes à feuilles en plein soleil, en plein été. C'est-à-dire que les laitues, ça se passe très bien au printemps. On n'est pas obligé de faire ça en juillet, août, si vous voulez. Ou là, il faut vraiment arroser beaucoup plus. Et on peut aussi, ces salades qui sont particulièrement gourmandes en eau, on peut aussi essayer de les abriter et de les faire pousser sous l'ombre d'une plante plus grande. Donc, bon, on ne peut pas tellement limiter la consommation en eau. On la limite pas mal déjà en n'arrosant pas aux heures chaudes de la journée. Mais on peut un peu décaler certaines cultures un peu plus tôt dans l'été ou un peu plus tard en saison.
Voilà, quelques bons conseils pour le potager et quelques découvertes aussi dans votre magazine, Mathieu Villiers. Par exemple, un arbre qui saigne. Allons bon. C'est un dragonnier, c'est ça ? À quoi il ressemble, ce dragonnier ?
À quoi ressemble un dragonnier ? C'est assez spectaculaire comme arbre. Hein. C'est une sorte de gros pin, mais qui n'aurait que des branchages clos sur le haut. C'est une sorte de parapluie, si vous voulez, extrêmement dense. Qu'on trouve du côté du Yémen. En fait, évidemment, il saigne pas. Hein.
Non. Mais sa sève.
Mais sa sève s'oxyde, oui. Et ça a servi de pigment dans le monde antique pour faire quantité de choses. C'est vraiment rouge sang, donc c'est assez spectaculaire. Et dans le monde antique, on s'en servait pour colorer les tissus, notamment.
Alors, une autre surprise dans votre magazine, ça nous a fait beaucoup rire dans l'équipe de la curiosité.
C'est pas
une
notre
plante.
Genre.
Qui pète.
C'est pas notre genre de rire à ce genre de choses.
Alors, comment elle s'appelle
tout,
et comment elle peut péter cette plante ?
Alors, elle est très mal nommée.
Parce que nous, on ne pète jamais, par exemple, vous voyez, donc on est un peu étonnés.
Des esprits comme ça, éthérés, si j'ose dire.
Elle s'appelle Mimosa pudica.
C'est joli.
Pudique.
Joli, non.
Pas tant que ça. Non, en fait, au niveau de ses racines, elle a des tout petits sacs composés de c'est soufré, en fait, à l'intérieur. Ça sent le soufre et ça sent pas bon. Et dès qu'on la manipule, dès qu'elle est en contact, ces sacs se cassent et libèrent une odeur assez nauséabonde.
C'est son moyen de défense, en fait.
C'est un moyen de défense, absolument.
Alors, il y a aussi les stratèges qui se servent des insectes. Par exemple, cet acacia qu'on trouve en Afrique, il est copain avec les fourmis. Pourquoi ?
Il y en a beaucoup des 4 symbioses dans le monde végétal aussi. Hein. Celui-là est tout à fait spectaculaire parce qu'il accueille un maximum de fourmis, peut-être jusqu'à 100 000 par arbre. Et alors, en échange quand même du gîte et des couverts, hein, c'est-à-dire que les épines sont des petits abris manifestement assez sympas pour les fourmis. Et puis, au bout de ces épines, il y a un petit peu de sucre qui est tout à fait délicieux dont elles se nourrissent. En échange de ça, elles assurent une guerre sans merci à tous les prédateurs. Alors, les prédateurs, ça peut être d'autres insectes, mais ça peut être des girafes. Hein. Donc, la girafe arrive et t'as des milliers de fourmis qui se collent sur son museau. La girafe part en courant avec son grand cou et la plante est très contente comme ça.
C'est génial.
Il y a aussi l'Ignora africa, dont la fleur ressemble à une bouche,
elle est
comme
magnifique.
Une bouche maquillée de rouge. Comment et pourquoi attire-t-elle les insectes ?
Parce qu'elle, comme beaucoup de plantes, elle ne se reproduit pas elle-même. Il faut des pollinisateurs. Donc, au moment de la reproduction, cette plante fait apparaître de manière béante deux lèvres roses qui dégagent une odeur pestilentielle.
Ah oui.
Ça sent le vivant en décomposition, si on peut dire comme ça. Donc, attire les insectes, et là, paf, la bouche se referme, les insectes restent enfermés là-dedans.
Mais elle ne les mange pas, en fait.
Elle ne les mange pas.
C'est pas une plante carnivore.
Non, les insectes se roulent dans le pollen.
Tout
prisonniers qu'ils sont. Et puis la plante finit par les relâcher, ils sont couverts de pollen et ils vont aller polliniser ailleurs.
Oh,
donc c'est
incroyable.
Un piège pour assurer la pollinisation.
Donc c'est une bouche de séductrice, quoi, ces
Absolument.
Lèvres rouges.
Absolument.
On n'a rien inventé, on a tout copié.
Pas très bonne odeur la bouche, mais
pas bonne haleine.
En photo, c'est ça. Quand on la voit en photo, on se dit waouh. Et puis en fait,
on lui roulerait bien une pelle, puis non.
Mais non, finalement non. Chez les arbres, on va du minuscule au gigantesque. Tiens, bon, on va pas parler du séquoia parce qu'on le connaît, mais le plus petit des arbres, il fait quelle taille?
Il est tout petit, il fait 10 cm. Alors on peut dire que c'est assez grand quand même, mais pour que ce soit un arbre, il faut que ce soit
c'est
en
un
bois
arbre.
Quand même.
Donc il y a de l'écorce.
C'est un tronc en bois, il y a de la lignite là-dedans, c'est un arbre.
Mais c'est un bonsaï, c'est ce qu'on appelle un bonsaï, il n'a rien à voir.
Non, un bonsaï, il est travaillé par ceux qui le coupent. Non, juste, il pousse sur le permafrost, qui est le sol gelé de la toundra. Donc les racines ne s'enfoncent pas, enfin, ça ne doit pas être une vie très plaisante pour un arbre. Donc il s'élève lamentablement à 10 cm de haut. Très loin.
Alors,
du séquoia, en effet.
De plus en plus de Français se soignent par les plantes. Quels sont les effets, par exemple, de l'aubépine, de la valériane, du gingembre ou du millepertuis? Réponse juste après les infos sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Du Pérou à la Réunion, en passant par le massif de la Chartreuse, les plantes médicinales offrent une pharmacie à ciel ouvert.
Colchique dans les prés, fleurissent.
La curiosité est un vilain défaut.
L'herboristerie, la phytothérapie sont en plein essor, proposant une alternative aux médicaments.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Guérir par les plantes.
Je pense qu'il y a une plante dont André Facetta voudrait qu'on parle.
Il y a une plante qui est interdite, hein, c'est celle que fumait Bob Marley. Et puis il y a une qui est un poison qu'on a déjà traité, c'est le colchique.
Le colchique, c'est pas.
Mais on va vous donner des idées, André Facetta, de bonnes plantes bienveillantes pour notre organisme. Les plantes, leurs secrets et leurs vertus à la une de la curiosité.
Gros, c'est tout à l'heure, André.
Et du magazine Science et Vie en partenariat avec RTL. Et c'est le directeur de la rédaction de Science et Vie, Mathieu Villiers, qui nous raconte. On va parler justement de ces plantes qui font du bien. Ça s'appelle la phytothérapie, se soigner par les plantes. Bon, ça, c'est vieux comme l'humanité.
Oh, c'est même plus vieux que l'humanité, je pense. Les singes.
Oui, mais avant nous, on ne pouvait pas soigner par les plantes. Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Ah d'accord.
La pharmacopée chez les rues, bien sûr. C'est une très vieille histoire.
Beaucoup d'humains aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de se soigner par les plantes.
Absolument.
Pourquoi?
Bah, parce qu'il y a des pays, des continents entiers dans lesquels l'accès aux médicaments industriels de synthèse est très compliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui se soignent encore avec les plantes. Ça ne soigne pas tous les plantes non plus.
Non, alors on oppose d'ailleurs souvent, et peut-être à tort, les médicaments, on va dire, l'allopathie, les médicaments de l'industrie pharmaceutique, et puis la phytothérapie. C'est une erreur parce que finalement, même dans les médicaments de l'industrie pharmaceutique, il y a une base venue des plantes, souvent.
Pas souvent.
Pas si souvent que ça.
Quelquefois. Non, il n'y a pas de raison de les opposer. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de trouver des principes actifs qui soient actifs, précisément.
Ouais.
Et utilement actifs pour guérir la maladie. Ils s'en trouvent dans les plantes, on en trouve dans les médicaments de synthèse. Et d'ailleurs, on peut parfaitement synthétiser un principe actif d'une plante pour retourner dans l'industrie pharmaceutique classique. Mmh. Donc ce sont des univers qui se parlent. Ils ne sont pas tout à fait disjoints, quand même.
Ouais. Alors, on en avait parlé ici même, mais c'est important de le redire. Dire, il y a un certain nombre de plantes qui ont une efficacité reconnue, c'est ça, et elles sont pas si nombreuses.
Elles sont très peu nombreuses. Alors,
c'est quoi, une vingtaine?
Une dizaine.
Ouais.
Une dizaine. Il y en a près de 500 qui sont autorisées, hein, 400 et quelques, je crois, qui sont autorisées, mais les autorités qui autorisent ou pas le font dans un état d'esprit particulier qui est, à défaut de soigner, ça doit pas rendre malade. Donc toute la phytothérapie qui est proposée, les autorités de santé se sont assurées du fait qu'il n'y ait pas de dangerosité associée à la consommation de ça. En revanche, les autorités de santé ne se donnent pas la peine de savoir s'il y a des bienfaits et si c'est véritablement efficace. Ce qu'on appelle la balance risque-avantage ne doit pas être défavorable.
Donc on est vraiment sur un terrain à peine défriché.
Assez peu défriché, les études sont dispendieuses, compliquées, et les études qui ont été menées concluent pour l'instant à ce qu'une dizaine de plantes à peu près aient démontré leur efficacité thérapeutique.
Par exemple la valériane, alors elle sert à quoi? Elle peut soigner quoi la valériane?
La valériane peut être utile sur les troubles du sommeil, et c'est une des plantes assez bien étudiées. Hein. Il faut qu'il y ait une teneur minimale, puisqu'on ne trouve pas toujours dans ce qui est proposé en phytothérapie, dans le principe actif, hein, qui s'appelle la valérénique, je crois, quelque chose comme ça. Mais ça marche plutôt pas mal, même pour de l'anxiété, du stress un peu léger, il y a des résultats qui sont jugés concluants.
Alors, on a fait la valériane, tiens, l'aubépine aussi, donc une des 10 plantes reconnues pour son... Enfin, qu'on peut en tout cas utiliser sans dangerosité. Son efficacité est reconnue pour lutter contre le stress, c'est ça?
Alors,
C'est compliqué l'aubépine.
C'est compliqué parce que il semblerait qu'elle soit assez efficace contre l'insuffisance cardiaque, qui est pas une plaisanterie, c'est une maladie sérieuse contre laquelle il faut prendre des traitements qui ont prouvé leur efficacité. Du coup, c'est compliqué d'avoir des tests là-dessus, parce qu'on va pas demander à des gens qui sont victimes d'insuffisance cardiaque d'arrêter de prendre leur traitement pour voir ce qui se passerait avec de l'aubépine. Bon, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont traités par la médecine classique pour ces problèmes-là et qui, de surcroît, prennent de l'aubépine, s'en portent plutôt mieux, développent moins d'effets secondaires et il semblerait que les traitements classiques soient améliorés par la prise d'aubépine, mais on ne sait pas si seule elle ferait le boulot. En revanche, effectivement, comme vous le disiez, sur le stress, un peu les palpitations, les choses comme ça, les vertus apaisantes de l'aubépine sont démontrées, ça fonctionne.
Bah alors là, pour cette plante, peut-être que c'est plus facile à prouver, je ne sais pas, le gingembre aurait un effet aphrodisiaque.
Alors,
ça se teste, ça aussi.
Bah, ça a été testé des centaines de fois, ils n'ont jamais rien trouvé.
Ah bon ?
C'est pareil de toutes les vertus. Alors, l'effet placebo est très puissant. Hein. Je ne vais pas vous rappeler simplement ce que c'est ici, mais c'est le fait de se sentir mieux parce qu'on a pris quelque chose qu'on pensait être une substance active et qui peut être du perlimpinpin. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet placebo qui fait l'aphrodisiaque.
Oui, c'est ça. Ça donne confiance d'un seul coup et hop.
Peut-être qu'on se sent paré d'une force toute nouvelle.
Donc ça, c'est un fantasme, si j'ose dire. L'effet.
Ça ne fait rien du tout, non.
L'effet aphrodisiaque du gingembre. Mais en revanche, ça a un effet thérapeutique reconnu, le gingembre, contre les nausées. C'est moins glamour, si j'ose dire.
Ah, mais c'est bien pratique.
Oui, ça peut être utile.
C'est pas très net.
Ah bon, alors là, on était prêts à s'enthousiasmer, ça retombe tout de suite.
Non, c'est pas très net.
Mathieu, franchement.
Il n'y a rien de très concluant sur le gingembre, je suis désolé.
D'accord, au revoir le gingembre.
Oh, bah, la grande camomille, là, par exemple. J'en ai
alors là,
souvent,
on est certainement sur la plante la plus sérieuse, la plus intéressante qui soit en matière de pharmacopée.
Enfin, la mieux étudiée, en tout cas.
Oui, puis en tout cas, avec des résultats assez spectaculaires. Ça, c'est pour les migraineux chroniques. C'est assez efficace. Hein. On est à peu près au niveau de ce qu'on observe avec les médicaments de synthèse classiques. Si les migraines sont extrêmement sévères, ça suffit peut-être pas, mais en tout cas, ça espace les crises de migraines de manière très efficace. Oui. Mmh.
Le millepertuis, on continue notre petite liste là, hein, parce que moi, je fais la liste des courses pour me sentir mieux. Le millepertuis,
bah là, pareil,
c'est efficace.
C'est, hein. Je crois qu'elle se partage la première place aussi. C'est l'efficacité est indiscutable en matière de dépression. Là, on parle de ça. Alors, évidemment, les dépressions sévères ne se traitent pas comme ça, mais les dépressions légères, voire un peu sévère, mais pas trop, c'est d'une efficacité égale à celle des antidépresseurs, moins les effets secondaires. Ouais. Donc franchement, là, on a véritablement quelque chose de très intéressant. En plus, on a découvert les principes actifs, parce qu'on se demandait un peu comment ça marche. On comprend comment ça marche, hein, c'est l'hypericine et l'hyperphorine qui régulent la sérotonine. Enfin, on a bien compris comment ça fonctionne, et ça fonctionne vraiment.
Bon, donc si on devait faire un podium, avant peut-être de s'offrir un peu de Bob Marley pour parler de nouveau du cannabis, si on devait se faire un podium, là, on dirait quoi ? On dirait grande camomille, millepertuis et peut-être aubépine, même si c'est difficile de prouver son efficacité, c'est ça ?
Aubépine en confort et en complément des traitements d'insuffisance cardiaque, mais en complément uniquement.
Bon, un petit peu de Bob Marley, là ? Parce que quand même, on peut pas parler des plantes sans évoquer le cannabis.
Alors, est-ce que ça a une efficacité thérapeutique reconnue, le cannabis ? Oui ou non ?
Alors,
plutôt oui.
Oui, plutôt oui, mais c'est
mais pas faut pas se l'administrer tout seul, c'est ça ?
Non, c'est pas ça, mais c'est plutôt des traitements de symptomatiques, c'est-à-dire que c'est pour alléger des souffrances. Hein. En soi, c'est pas quelque chose qui guérit, mais dans le cas des scléroses en plaques ou de chimiothérapie mal tolérée ou de choses comme ça, c'est effectivement un antalgique assez puissant et c'est un déstressant assez puissant aussi. Donc il a son intérêt dans la pharmacopée, absolument.
Et il est utilisé en France, on peut se le faire prescrire justement pour soulager ces certaines douleurs.
Il y a beaucoup de pays où le cannabis est utilisé à des fins thérapeutiques. En France, on a une situation un petit peu bâtarde, c'est-à-dire que depuis 2014, il y a un spray buccal, parce qu'on n'a pas, c'est pas fait pour le fumer, hein, ça se prend ou en comprimé ou en spray, qui a été autorisé, mais il est toujours pas sur le marché. Alors, soi-disant, c'est parce qu'ils s'entendent pas sur le prix, mais enfin, on sent qu'il n'y a pas une volonté très vive de mettre très rapidement sur le marché des cannabinoïdes qui ont pourtant leur utilité, dans pas mal de pays développés, sont utilisés, et ça soulage les traitements lourds.
Vive les plantes!
Merci beaucoup Mathieu Villiers. Les plantes, leurs secrets, leurs vertus à lire dans le Science et Vie questions-réponses de l'été. Très bonne lecture sur les plages, c'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.